Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Michaël Mangot qui vient de faire paraître chez Erol Les générations déshéritées, un ouvrage de 140 pages pour 12 euros. Bonjour Michaël Mangot.
Bonjour.
Heureux de vous recevoir sur notre antenne. Alors, vous êtes docteur en économie, chercheur à l'ESSEC à Singapour, membre du think tank Le Cercle Turgot. Vous êtes enseignant et consultant indépendant, notamment pour des sociétés financières. Et vous êtes un auteur confirmé, puisque vous avez été le plus jeune lauréat du prix Turgot, du meilleur livre d'économie financière en 2006, pour votre ouvrage « Psychologie de l'investisseur des marchés financiers » paru chez Duno. Et vos travaux portent principalement sur la finance comportementale et la psychologie des marchés financiers. Alors, vous appartenez à la limite à la génération Y et vous avez bien sûr eu un parcours assez exceptionnel qui, a priori, vous aurait plutôt rapproché de la réussite, entre guillemets, de la génération des baby boomers. Or, dans votre ouvrage, vous posez la question qui est certainement centrale dans vos développements. Les jeunes sont-ils condamnés à vivre moins bien que leurs parents? C'est ça la vraie question. Alors, vous développez votre thèse en plusieurs chapitres, et vous pouvez nous rappeler en quelques mots, avant de revenir sur vos développements, quel est le déclencheur qui vous a amené à faire paraître cet ouvrage?
Tout a commencé avec un ouvrage collectif du Cercle Turgot qui s'appelait « Rigueur ou relance ». Il se posait la question de savoir ce qu'on allait faire de la dette publique, en tout cas comment résoudre le problème de la dette publique. Et j'ai réfléchi à cette occasion à une contribution sur le concept d'équité intergénérationnelle au moment où on se pose le problème de réduire la dette publique. Comment faire pour maintenir ou améliorer une certaine équité intergénérationnelle. Donc, c'était une petite contribution d'une quinzaine de pages, mais au fur et à mesure de mes lectures, de mes recherches sur le sujet, j'ai eu vraiment l'impression d'un système qui ne tournait pas rond et qui avait conduit, bon an mal an, sur plusieurs dizaines d'années, à une grande précarisation de la jeunesse française.
D'accord. Alors, vous soulignez bien entendu que la situation économique que connaît la jeunesse aujourd'hui en France n'a plus rien de comparable avec celle qu'ont vécu les générations entrées dans la vie active durant les 30 Glorieuses. Et ceci crée, selon vous, donc un stress particulier pour ces nouvelles générations qui se disent, face à l'avenir, inquiétudes, questions, etc.
Il est clair qu'on ne les met pas dans les meilleures dispositions face à l'avenir. Pour résumer, les jeunes aujourd'hui sont caractérisés, en tout cas quand on les compare avec les générations d'avant, et surtout les générations qui ont commencé leur vie active durant les 30 Glorieuses, les jeunes d'aujourd'hui se caractérisent par une plus grande précarité face à l'emploi, un taux de chômage bien supérieur de l'ordre de 23% sur les jeunes en dessous de 25 ans, une plus grande précarité des contrats de travail aussi, avec des CDD qui sont très fréquents dans cette classe d'âge et beaucoup moins après. Vous avez aussi des revenus en entreprise qui, on l'a vu, ont eu tendance à se pentifier avec l'âge. C'est-à-dire que maintenant, la grille des salaires dans l'entreprise est beaucoup plus marquée selon l'âge qu'elle n'était avant, quand mes parents, par exemple, sont entrés sur le marché du travail. De la même manière, l'accès à la propriété ou l'accès au logement est beaucoup plus difficile. Le taux d'effort immobilier a explosé. Maintenant, les jeunes placent 25 à 30% de leurs revenus disponibles dans le logement, ce qui est énorme et incomparable avec ce que leurs parents plaçaient dans le logement. Et le risque de déclassement social ou de déclassement scolaire est beaucoup plus fréquent, beaucoup plus important qu'il ne l'était il y a 30 ans, par exemple.
Voilà. Alors, vous avez des chapitres qui sont très descriptifs. Le premier étant le destin des générations. Et vous avez cette expression, les baby-boomers, puis le déluge. C'est à ce point, selon vous?
Si vous voulez, il faut vraiment se rendre compte d'un phénomène français, c'est que la génération des baby-boomers, en tout cas des baby-boomers de la première fournée, on va dire ceux qui sont nés entre 45 et 55,
c'est ça,
semble être la génération bénie des dieux, en tout cas des dieux économiques, puisqu'ils ont bénéficié du premier choc scolaire, le choc scolaire qui a amené les gens à arriver massivement au diplôme de fin de collège. Puis après, ils ont pu rentrer dans la vie active facilement, sans aucun problème de chômage et avec des salaires qui étaient élevés par rapport aux autres classes d'âge. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient plus qualifiés. Après, ils ont pu très rapidement, donc autour de 25-30 ans, accéder à la propriété immobilière dans un environnement très inflationniste, donc ce qui leur permettait de rembourser très facilement. Puis après, dans les années 80, 90, quand la conjoncture s'est retournée, ils ont été protégés du chômage par la forteresse des CDI. Et enfin, la cerise sur le gâteau, leurs dernières années de vie active ont été marquées par la bulle immobilière qui les a considérablement enrichis. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent à rentrer dans la période de retraite avec un patrimoine gonflé par l'immobilier, sans avoir connu très souvent des périodes de chômage, en tout cas beaucoup moins souvent que les générations d'après, et avec des droits à la retraite encore élevés, moins élevés que ceux de leurs parents quand même, il faut le signaler, mais quand même élevés, et puis des droits aux dépenses de santé aussi très élevés. Donc ils ont eu un destin économique doré par rapport aux générations d'avant et par rapport aux générations d'après, ce qui est un peu plus problématique.
Oui, alors votre intention, ce n'est pas de reprocher à ces générations d'avoir connu donc une période faste, mais c'est de dire que par contre, à un moment donné, elles ont dépassé la ligne jaune ou rouge.
Sans même le savoir.
Sans même le savoir. Vous vous rappelez quelques chiffres. La dette publique par habitant, 27 000 euros, a été multipliée par 5 depuis la fin des années 70. Le taux de chômage des jeunes, 23% par 4. Le taux d'effort des jeunes pour se loger, 25% du revenu par 2, et le risque de déclassement social par 1,5. Donc c'est absolument terrible, et c'est ça certainement
oui,
qui n'a pas été pris
oui,
en
donc,
compte.
Et vous avez raison, on peut le lier à un certain nombre de politiques publiques qui ont été favorables à cette génération des baby-boomers. Il y en a une qui est évidente, c'est que la dette publique, elle ne vient pas de nulle part. La dette publique, on doit l'associer à 37 années de suite de déficit budgétaire. Et un déficit budgétaire, c'est quoi? C'est tout simplement des dépenses qui excèdent des recettes. Donc ça veut dire, on peut le voir comme ça, que pour le niveau de service public que les ménages ont reçu, ils n'ont pas payé assez d'impôts. C'est assez violent comme formulation, mais c'est le cas, c'est la définition même d'un déficit. Et ce surcroît de revenus, puisqu'ils ont économisé des impôts, ce surcroît de revenus, il a été dépensé sous forme de consommation, et puis il a été placé en épargne. Et en France, on sait où va l'épargne, elle va dans l'immobilier. Donc, on peut dire qu'en partie, parce qu'ils ont évidemment travaillé plus que les générations d'après. Ils ont travaillé et avec ce travail, ils ont pu épargner. Mais cette épargne est due au moins en partie au déficit budgétaire qui a pu être recyclé sous forme d'épargne. Et cette épargne, ensuite, a été placée dans l'immobilier et conduisant au moins en partie à cette bulle immobilière qu'on connaît depuis 15 ans.
Alors voilà, à grands traits, le constat, en quelque sorte. On va peut-être maintenant s'attacher à trouver les solutions, en tout cas les pistes et les éléments de réponse que vous préconisez. Selon vous, donc, la première des dispositions, si demain vous étiez au pouvoir, ce qu'on peut vous souhaiter...
Demain, c'est peu probable. J'arrive pas à avoir les 500 signatures. Je me bats tous les jours, mais j'arrive pas.
Bon, donc, mais prochainement, donc, quelles seraient les deux ou trois principales décisions qui vous paraîtraient nécessaires de prendre?
Il y a plusieurs axes de réforme qui me paraissent nécessaires. Vous avez déjà un rebasculement du financement de la protection sociale qui pèse encore excessivement sur les salaires, sur les revenus du travail, un rebasculement donc du financement de la protection sociale des revenus du travail sur une base plus large qui inclurait beaucoup plus qu'il ne le fait actuellement les revenus du patrimoine. Donc il y a évidemment, on en parle énormément, les niches fiscales à raboter, très bien. Éventuellement, et ça a déjà été fait, remonter la fiscalité des revenus de l'épargne, ça a été déjà fait dans les dernières annonces de Nicolas Sarkozy. Donc on arrive maintenant à un taux de fiscalité sur l'épargne qui est de l'ordre de 40%, ce qui nous place... à un niveau très élevé, notamment quand on compare à l'Allemagne, qui est plutôt du côté de 25%. Mais sur les revenus de l'épargne, il reste une niche fiscale dont on ne parle jamais, c'est la niche fiscale de la résidence principale. Donc la résidence principale est exonérée d'imposition sur les revenus qu'elle génère, ce qu'on appelle les loyers fictifs, ce qu'elle génère pour le propriétaire. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui possède sa résidence principale ne paiera pas de loyer, ou en tout cas se paiera un loyer à lui-même. Le loyer qui se paye à lui-même n'est pas fiscalisé au titre de l'impôt sur le revenu. De la même manière, les plus-values, si d'aventure il y a des plus-values au moment de la vente de la résidence principale, ne sont pas fiscalisées non plus. Et là, Dieu sait qu'il y a des plus-values depuis 15 ans. Donc rien que la partie loyer fictif équivaut à 120 milliards selon la comptabilité nationale. Et sur ces 120 milliards, si vous fiscalisez ça à l'impôt sur le revenu, il y a à peu près 30-35 milliards de ressources sous forme d'impôt sur le revenu et sous forme de CSG. Donc c'est sans doute la niche fiscale la plus énorme qui existe actuellement, mais dont on ne parle jamais.
Mais alors vous n'avez pas l'impression que vous touchez à un tabou?
C'est un tabou, mais on est dans une telle situation économique qu'on doit pouvoir tout mettre sur la table. Et je ne vois pas de raison légitime d'octroyer un tel avantage fiscal à la résidence principale par rapport aux autres investissements qu'un ménage pourrait faire. Si un ménage utilise son capital accumulé à la sueur de son épargne et de son travail, si ce capital, le ménage, le place dans des actions, le place dans des obligations, ou le place même dans un immeuble locatif qu'il va mettre en location, ce sera fiscalisé. Donc pourquoi la résidence principale, elle, ne sera pas fiscalisée ?
Parce qu'effectivement, probablement qu'une partie de la réponse, c'est que depuis quasiment la nuit des temps, enfin en tout cas depuis les 30 Glorieuses, l'acquisition de la résidence principale est considérée comme vertueuse. Et qu'à partir de là...
Enfin, le travail aussi est vertueux et pourtant le taxe à 50%.
Tout à fait. Mais le sens de ma question, c'est ça. C'est est-ce que vous avez le sentiment que la société commence à être suffisamment mûre pour accepter de telles évolutions où il faut...
Non, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'extraordinairement polémique. Là, vous touchez à l'intime des familles.
Ouais, c'est ça.
Et ça fait partie de leur trajectoire de vie, qu'ils veulent devenir propriétaires. Donc là, leur dire qu'on va rendre l'accession à la propriété plus difficile, en tout cas plus coûteuse, c'est quelque chose qui sera une pilule évidemment très dure à avaler. Mais n'oubliez pas où on en est, 1700 milliards de dettes et un système fiscal complètement à bout de souffle qui fait reposer sur le travail le financement de la protection sociale. Et avec les coûts que ça entraîne, c'est-à-dire un coût en termes de compétitivité et un coût en termes de pouvoir d'achat. Donc si on veut redistribuer du pouvoir d'achat et améliorer la compétitivité, il faut impérativement baisser la fiscalité et les charges sociales qui pèsent sur le travail. Et il faudra trouver l'argent ailleurs. Donc je propose de le trouver sur le patrimoine et notamment sur la partie du patrimoine qui est exonérée, le patrimoine résidentiel. Mais ce n'est qu'une mesure.
C'est pas une obsession de
fiscaliser la résidence principale. Il y a plein d'autres mesures.
Alors, et par exemple ?
Une autre, ce serait le contrat de travail. Fusionner les deux contrats de travail, CDD-CDI. Le CDD, c'est une innovation de 1979 qui a été introduite dans la machine économique française pour permettre un peu de flexibilité alors qu'on était aux prises avec le premier choc pétrolier et que pointait le bout de son nez le second choc. On a fait ça, mais on a fait ça de manière à ne pas remettre en cause les droits des salariés déjà établis. Donc on a créé ce deuxième contrat de travail qu'on a juxtaposé à côté du CDI. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, vous avez 90% des embauches qui sont des CDD. Ça s'explique en partie par la faible durée de ces contrats. Mais quand même, c'est devenu quelque chose d'extraordinairement populaire, les CDD. Le problème, c'est que toutes les classes d'âge ne sont pas sujettes de la même manière à la précarité des CDD. On sait qu'elle est concentrée sur qui ? Sur une partie de la population, que sont les jeunes. Vous avez un taux de CDD chez les jeunes de l'ordre de 25%. Et évidemment, après, chez les trentenaires, les quadragénaires, les quinquagénaires, vous n'avez plus du tout ces mêmes taux. Pourquoi accepte-t-on de précariser autant la jeunesse dans ses premières années de vie active? Pourquoi ? Donc je trouve que c'est un système éminemment injuste. Si on veut de la flexibilité, pourquoi pas ? Et moi, à titre personnel, j'y suis plutôt favorable. Pourquoi pas, mais qu'elle soit partagée par tout le monde.
C'est ça. Donc vous avez l'impression, vous avez la certitude et le ressenti, c'est bien que, de même que le chômage d'ailleurs, est concentré d'une façon beaucoup plus générale sur...
Et pourquoi il est concentré sur les jeunes, le chômage, tout simplement ? Parce qu'il y a la protection de l'emploi associée au CDI. Du coup, en France, vous licenciez beaucoup moins et du coup, le chômage est sur ceux qui n'avaient pas d'emploi.
Tout à fait.
Donc les jeunes.
Tout à fait.
Ou les immigrés, ou les femmes qui étaient au foyer et qui décident de trouver un emploi. Dans ce cas-là, elles auront du mal à trouver un emploi stable, un CDI, et elles auront vraisemblablement beaucoup plus de chances de trouver un CDD ou de l'intérim.
Alors, est-ce que vous avez tenté d'adresser à chaque responsable de parti politique votre ouvrage avec...
Je vais le faire. Pas encore. J'attends que les candidatures soient avalisées par le Conseil constitutionnel et après, je l'envoie par coursier.
D'accord. En tout cas, c'est une analyse extrêmement percutante qui fait ressortir le ressenti, le vécu d'une génération que vous connaissez bien puisque vous y appartenez.
Mais j'essaye de dépasser le vécu personnel en tout cas.
Bien sûr, tout à fait.
Parce que tout le monde a son avis là-dessus.
Bien sûr.
Mais il faut sortir du vécu personnel et du vécu familial. C'est pas parce que le grand-père s'est saigné que la situation de cette génération par rapport aux autres était juste ou était particulièrement dégradée. Non, il faut regarder les chiffres à l'échelle de l'ensemble de la population française.
Oui.
Et c'est ce que j'ai essayé de faire.
D'accord. Donc vous considérez que c'est une forme d'injustice de l'histoire ?
De l'histoire et des politiques publiques. C'est pas juste dû au retournement de conjoncture depuis les années 70, hein, non.
Alors, vous êtes servi par une plume de qualité, hein, j'attire l'attention de nos auditeurs sur cet aspect des choses, et je vais en donner une illustration en lisant une partie de votre conclusion. Les jeunes ont le premier rôle à jouer dans cette révolution économique et fiscale. Après tout, pendant les 40 prochaines années, et même plus, ce sont eux qui vont être les chevilles ouvrières du pays. Leur adhésion au modèle social est indispensable pour sa survie. Si au contraire, ils sont nombreux à choisir l'exil plutôt que le sort économique qu'on leur propose ici, le modèle français périclitera mécaniquement. Donc c'est quand même vraiment une sonnette d'alarme.
Pour l'instant, l'exode massif des jeunes Français reste largement un fantasme. Quand on regarde le nombre de Français à l'étranger, il n'y a pas eu un exode massif. Mais si on s'écarte de plus en plus de trajectoires de vie intéressantes pour les jeunes, on ne peut pas exclure le fait que beaucoup voteront avec leurs pieds et partiront.
D'accord. D'ailleurs, vous avez l'expérience, parce que vous-même, alors, mais...
Je ne suis pas un exilé, mais
vous exercez, oui. Notamment à Singapour, si je me souviens bien.
Oui, j'ai vécu à Singapour, et puis je passe encore 2 mois de l'année à Singapour.
D'accord.
Et je peux vous assurer que la trajectoire des jeunes là-bas n'a rien à voir avec celle des jeunes français.
Les salaires
sont beaucoup plus élevés qu'en France, par exemple. Et vous avez beaucoup de Français qui ont fait la culbute, excusez-moi du terme, mais qui ont fait la culbute en partant à Singapour. Et pareil, les conditions de logement sont facilitées, vous n'avez pas les problèmes de logement qu'on connaît ici.
Donc c'est véritablement un cri d'alarme qui s'adresse à la classe dirigeante. C'est un ouvrage qui est grand public, hein, ça je le précise à nos auditeurs, hein, donc qui est tout à fait accessible par le plus grand nombre. Mais à travers lui, vous adressez un message très très clair à la classe dirigeante en leur disant « attention ». Véritablement, les choses deviennent
dramatiques,
insupportables. Quoi.
Oui. Donc, alors, on peut le voir d'une manière abstraite et se dire, il y a une injustice. Le concept d'équité intergénérationnelle n'a pas été respecté. On peut le voir déjà comme ça. Et puis après, on peut juste regarder l'avenir. Si la jeunesse part, qui va financer nos énormes besoins en retraite et nos énormes besoins en dépenses d'assurance maladie? Qui va le faire? Donc, il faut donner à la jeunesse les moyens de réussir dans ce pays. Et donc, il faut redistribuer, il faut qu'ils aient des revenus décents, il faut qu'ils arrivent à se loger, il faut qu'ils aient éventuellement, et là, c'est une autre piste de réforme, qu'ils aient accès, par exemple, à leur patrimoine familial beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Ça sert à quoi d'hériter à 55 ans?
Oui, et encore, vous êtes...
Non, c'est le chiffre.
On
hérite en moyenne à 55 ans en France.
D'accord.
Et à quoi ça sert, dans une trajectoire de vie, d'hériter du patrimoine de ses parents à cet âge-là? Il faut faire en sorte d'accélérer les transmissions intrafamiliales, de sorte que le petit-fils qui commence dans la vie à 25 ou à 30 ans ou à 35 ans quand il a commencé à avoir ses enfants puisse se lancer dans un projet immobilier, mais c'est pas ce qui me tient le plus à cœur, projet entrepreneurial par exemple.
Oui, mais ça suppose là aussi de passer par la case fiscalité.
Parce qu'inciter
aujourd'hui, on ne sait pas bien
faire.
On
l'a déjà fait avec la loi TEPA, on a incité les donations. Et là, ça va être encore plus polémique. On peut le faire avec une incitation négative à la transmission par héritage, c'est-à-dire en augmentant les droits de succession pour augmenter le différentiel avec les droits pesant sur les donations. Et ça permettrait à la fois d'en finir avec cette France qui est devenue largement une France d'héritiers et de rentiers, en accélérant les transmissions pour que les jeunes puissent utiliser toutes leurs ressources pour créer de la valeur. Et la valeur qui va profiter à tout le monde, y compris à leur grand-père qui aura transmis. Vous voyez ?
Voilà, c'était donc le cri du cœur d'un jeune auteur de la nouvelle génération qui, à travers donc son nouvel ouvrage, sa nouvelle parution, Les générations déshéritées, paru chez Erol, Comment réparer la grande injustice, nous adresse, et à la classe dirigeante en particulier, un cri d'alarme sur la situation de cette nouvelle génération. Un dernier mot peut-être, Michaël Mangot.
Un dernier mot, c'est par ce livre, même si j'ai été mandaté par rien, je me fais peut-être le porte-parole de ma génération, mais pas seulement. La situation des générations s'est largement dégradée depuis les générations qui sont rentrées sur le marché du travail dans les années 80. Donc c'est juste que ça empire.
Ouais.
Donc ma génération, moi j'ai déjà 33 ans, n'est pas non plus celle qui est la plus à plaindre, celle d'après c'est encore pire. Donc si vous voulez, depuis les années 80, grosso modo, vous avez un lent mouvement tendanciel de déclin de la situation économique des générations. Donc c'est pas forcément centré sur le destin de ma génération, c'est même une génération intermédiaire.
La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette situation que vous décrivez comme étant dégradée, quelle est la part du ressenti par rapport au réel?
On a donné un certain nombre de chiffres déjà. Le déclassement scolaire, le déclassement social, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès au contrat stable, c'est pas du ressenti, ce sont des faits. Après, le point du ressenti est important, je pense, dans la perception de ses revenus. Effectivement, si on regarde les revenus de la jeunesse aujourd'hui, ils sont supérieurs aux revenus au même âge de leurs parents. En termes de revenus absolus, ils sont pas à plaindre. Mais en termes de revenus relatifs par rapport aux comparables de l'époque, toutes les autres classes d'âge, là, ils sont à plaindre. Parce que si on s'intéresse non plus au revenu absolu, mais au revenu relatif, aux autres classes d'âge, le revenu relatif s'est dégradé. Donc la situation des jeunesses relativement aux autres classes d'âge s'est dégradée. Leur revenu de manière absolue, là, vous avez raison, est meilleur qu'il y a 30 ans, c'est sûr.
Je pense que c'était important de le préciser parce que personne ne pourrait croire qu'on est dans un scénario complètement dramatique.
Oui, en regardant les richesses qu'il y a à l'extérieur.
Voilà.
Donc, mais... Non, c'est sûr que mes parents n'avaient pas d'iPhone, hein, vous avez raison.
D'accord. Bien, écoutez, c'est sur ce bon mot que nous arrêterons cet entretien. Je rappelle à nos éditeurs cette parution remarquable, Génération déshéritée, chez Erol, une parution pétillante d'intelligence et décapante, donc à ne rater sous aucun prétexte. Merci à vous, Michaël.
Merci.
Et à très bientôt.
Au revoir.